Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
Cube Radio.
Hey mon amour, sais-tu quoi? Aujourd'hui, parce qu'on reçoit ce soir, j'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, je suis allée chez le coiffeur. Puis quand je suis rentrée à la maison, je me suis dit, OK, on fait de la radio! Et j'ai comme le réflexe de dire, tu sais, c'est spécial, c'est une soirée spéciale, on a des invités, je veux pas avoir l'air de la chienne à Jacques.
Ah, c'est ça, quand t'as des invités,
oui.
Là, c'est important, les
je
cheveux,
me mets
ça,
belle.
Tu te mets belle, mais quand on fait rien que manger, toi plus moi, non, c'est pas vrai.
Je m'en fous complètement, j'ai les cheveux tout croches, je suis pas maquillée,
pas
habillée n'importe comment. C'est non, mais tu sais, c'était juste drôle. Je veux dire quelque chose. Je réécoutais récemment, il y a deux jours en fait, un des podcasts qu'on a fait il y a comme deux mois. Et je racontais que je prenais l'apéro au Perrier au lieu de prendre l'apéro avec du vin. Puis je disais, je le dis en ondes, j'en reviens pas que j'ai dit ça, que je trouvais que j'étais trop grosse puis que je voulais perdre du poids puis tout ça. Ben aujourd'hui, là, par rapport à cette émission-là qu'on a enregistrée, j'ai perdu 15 livres.
Oui.
Alors... On s'applaudit et on lève notre verre de Perrier.
Bravo!
Ben oui!
Bravo!
Parce que si je dis à la radio que je suis grosse, il faut toujours bien que je le dise quand j'ai perdu du poids. Est-ce que j'ai le droit de dire que j'étais grosse? Ou c'est de la grossophobie?
Ben, si la grossophobie est dirigée contre toi, t'as le droit. Ce soir, on fait quelque chose qu'on a fait. Ça va être la deuxième fois qu'on fait ça.
D'avoir deux hommes?
Non. On fait plaisir à un invité.
Oui, c'est vrai.
On a eu Fabienne qui avait demandé...
Fabienne Larouche.
Oui, Fabienne Larouche qui voulait voir Marianne Saint-Gelais parce qu'elle admirait Marianne Saint-Gelais. Puis on a dit, OK, c'est pas le genre d'affaire qu'on fait habituellement parce qu'habituellement, c'est nous qui décidons qui on match puis tout ça.
C'est Richard qui décide.
Oui. Et là, Paul Larocque, on voulait l'avoir, je travaille avec Paul. Puis bon, je lui disais, il faut que tu viennes, blablabla. C'est un gars intéressant, on le connaît.
Journaliste à LCN, à TVA.
Chez eux une couple de fois, oui. Tout ça. Et là, Paul me dit, écoute, est-ce que tu pourrais avoir Jean-Pascal là? Parce que, bien, pour moi, je ne savais pas que Paul tripait sa boxe. Qu'une idée.
Il tripe sur la politique puis la boxe. C'est un tout petit peu pareil.
Et au cours de la soirée, pas tout de suite, au cours de la soirée, je vais raconter la fois où j'ai amené Sophie dans un combat de boxe professionnel.
Et c'était Jean-Pascal.
Et oui.
C'était contre Lucien Bouté.
J'ai tellement hâte de raconter cette histoire-là. Pas tout de suite. Je vais la raconter devant Jean-Pascal et devant Paul.
Et il ne faut pas que tu oublies, parce que tu as dans ton bureau des gants de boxe que je t'avais offerts. J'étais allée à un moment donné à un truc de levée de fonds, puis moi, je ne connais rien en sport et d'autant plus à la boxe. Puis là, il y avait des gants de boxe d'un boxeur supposément hyper connu. Puis moi, je sais que tu t'intéresses à la boxe, fait que j'avais dépensé comme 400$ pour acheter ces gants-là. Et tu les as dans ton bureau.
Oui, on va les montrer tantôt. Qu'est-ce qui va arriver avec son entourage? Parce que les boxeurs ont toujours un entourage. Ça me fait
entourage.
Rire.
Entourage!
Oui, ils ont toute une gang autour d'eux autres. Je sais pas, ils font vivre comment, Christy, ces gens-là? C'est quoi cet entourage-là?
Mais non, mais il fait beaucoup d'argent, là. J'imagine, pour se payer toutes ces chaînes-là en or, bling-bling, là, ça vaut de l'argent, ça?
Un millionnaire, Jean-Pascal?
Non, je ne penserais pas.
Je sais pas.
Là, ça dépend, il va peut-être avoir un rematch parce qu'il a gagné un match. On dit ça, un match de boxe,
c'est
oui,
un
c'est le mot.
Un comeback incroyable.
Ben
tout
oui,
le disait,
complètement délirant.
Tout le monde disait, le has-been, loser, fini, il devrait décrocher, tout ça. Puis là, pouf, il est revenu. D'ailleurs, Paul, quand il m'a vu, il a dit, mais quel comeback!
Ah ouais, mais c'est ça qui est le fun aussi dans le monde de la boxe. Comme tu le disais tout à l'heure si bien, toutes les métaphores qui sont liées à ça. Tu sais, quelqu'un, quand tu te fais mettre KO, puis tu te relèves dans le ring, quand tu te fais envoyer dans les cordes, mais que tu reviens, tu sais, c'est des sacrées leçons de vie, là.
Je suis content de te voir, on ne s'est pas vu
oui,
toute
je
la
t'aime.
Journée.
Bon, tu travailles comme un fou.
Allô,
hey,
allô.
Salut!
Non, on est un.
Salut! Hein?
Mais tant vous deux,
c'est ça, vous deux, je suis pas champion, mais je vous aime.
Oh.
Non, mais écoute, c'est difficile, hein? Circuler à Montréal.
Non,
mais je vous annonce une nouvelle, c'est difficile, circuler à Montréal.
Ben oui, hein? Mais ben, bienvenue chez nous, c'est
ben,
la première fois que tu viens dans notre nouvelle
exactement.
Maison.
Exactement.
Alors, ben, c'est ça, bienvenue dans notre cuisine.
pendant que Jean n'est pas là, tu voulais, tu avais demandé si c'est possible de rencontrer Jean-Pascal. Pourquoi?
Bien, tu sais, je le connais un peu. Je connais un peu, mais moi, j'ai assisté à plusieurs de ses combats. Moi, là, je vais vous dire, j'ai découvert la boxe sur le tard, puis avec Jean-Pascal. Quand tu le vois de près, tu comprends, tu sais, le noble art.
Oui, tout à fait.
Il y a quelque chose qui va au-delà du sport usuel là-dedans. Puis, alors moi, j'ai connu Jean-Pascal dans l'arène. Heureusement, je n'étais pas contre lui, là, mais j'étais près de l'arène. Puis alors, c'est ça, tu sais, c'est un personnage comme moi qui me fascine.
Alors, j'espère que lui ne va pas être à l'eau puis à la laitue, parce que ça va être plate longtemps.
Mais s'il est en phase d'entraînement, ça va être difficile, tout dépendant, tu sais, parce
que... on verra.
C'est pour ça que je ne fais pas de combat. Non, mais moi, je me souviens d'un autre boxeur qui m'avait dit aussi, puis en plus, avant, tu sais, parce que la phase 24 heures avant, là, ils reprennent le poids, là, puis tout ça, réhydratent et tout ça. Ouais. Puis, tu sais, ils reprennent 10 livres à peu près en 24 heures. Hein? C'est fou, mais tu sais, ça démontre à quel point avant, ce qui est fou, c'est avant.
C'est avant d'avoir perdu comme ça.
Mais lui, il bouffait de l'ail, hein? Tu sais, pour puer, tu sais, pour...
Pour écœurer l'autre.
Écœurer l'autre.
Non.
Oh oui. Ça faisait partie de
toutes les rencontres. C'est une guerre psychologique.
Jouer dans la tête de l'autre. Là,
de l'aide psychologique.
De l'aide.
De l'aide psychologique.
Non, mais bonne quand même. Un appel à l'ail.
Non, mais l'aide psychologique, c'est aussi une façon de dire tu vas déstabiliser ton adversaire faisant tout en ton pouvoir pour vraiment le déranger. Tu devrais essayer ça à un moment donné, toi aussi, Paul, quand tu fais une entrevue avec quelqu'un que tu veux vraiment le déstabiliser, tu manges 12 gousses d'ail avant, puis là, tu ouvres ta bouche, puis tu fais « Bonjour et bienvenue!
» Fin de l'entrevue.
J'ai déjà eu des invités comme ça, moi, au François, oui. Mais je n'aimerais pas.
Qui?
Mais on nous met tout à l'heure des invités qui ne sentaient pas bon. Wow. Ah, tiens, c'est Jean-Pascal.
Est-ce qu'il va arriver seul avec son entourage? Les boxeurs ont toujours un entourage de 10 personnes. Tout le temps.
L'important, c'est qu'il soit là. Hein? La porte a été barrée.
Oui,
salut, bonsoir, comment ça va?
Bien, merci, vous.
Ça va?
Bon, super, merci d'être là.
Ah, c'est bon, la belle mallette. Et on devrait prendre ça en photo. Bienvenue chez nous.
Merci beaucoup. J'ai apporté ma... Salut, Richard.
Hé, ta ceinture?
J'ai apporté ma ceinture.
Oh, wow! Est-ce que tu bois? Est-ce qu'on peut te servir un verre de vin?
Ouais, un verre de vin, c'est vrai. Je suis en vacances.
Très bien, donc pas en entraînement, là.
Ben, j'ai recommencé, moi, l'entraînement, mais je suis pas à l'entraînement intensif ou sinon en camp d'entraînement. Alors, je peux me permettre un petit... un verre de vin par jour pour la santé, c'est bon.
Ça, c'est vrai.
Rien qu'un.
C'est le deuxième, le troisième, le quatrième. Exactement. Le problème, ça.
Qui peut faire du dommage.
Ta ceinture de champion du monde?
Ben, c'est pas celle-là, c'est la ceinture WBC, si tu veux, que j'ai gagnée. Ma ceinture de champion du monde, je l'ai pas encore reçue. Je l'attends dans les prochains jours, la prochaine semaine.
Oh!
Oh my God!
Écoute, la couleur!
C'est Ali!
Ouais, ça c'est Ali, Mohamed Ali. Ça c'est moi ici. Ça c'est le président qui a décidé, c'est Mauricio. Un peu la relève.
Est-ce que c'est toi qui as décidé de mettre Ali sur ta ceinture?
Non, Ali reste toujours
permanent. Ah oui, ok, je pensais que c'était toi qui avais choisi.
C'est une légende, ouais.
Mais tu sais, Jean, que Paul, on a vu des vidéos de lui cet été à Salut Bonjour. Il fait de la boxe, puis Richard remarquait, écoute, il y a tout un
crochet
de la droite, là.
La droite, c'est Jean qui m'a inspiré.
Bon, alors, Richard aussi, il y a un crochet de droite, mais c'est plus dans ses opinions.
il manque la gauche.
Ouais, c'est ça, il est plus ting-ting.
OK. Sophie n'avait jamais vu un combat de boxe. Mm-hmm. Moi, je suis un fan, j'aime ça, puis j'allais voir quelques combats de boxe. Puis, tu sais, j'ai dit à Sophie, il faut que tu viennes. Puis elle a dit non, parce qu'elle, c'était des brutes qui se tapaient sur la gueule, puis ça, elle veut rien savoir. Puis je dis, viens, c'est le plus gros show en ville. Il n'y a rien qui bat ça. C'est le plus gros show que tu peux voir. Écoute, elle était debout sur la table, puis elle criait, tue-les! C'était Jean qui boxait, je pense.
Ben oui! Ben oui, absolument.
Puis elle était debout sur la table, puis elle disait «
J'étais tellement énervée. Déchaînée. Je ne me reconnaissais pas. C'est parce que c'est tellement intense, puis tu veux tellement... Ben moi, je voulais que ce soit toi qui gagne, évidemment, mais c'était tellement intense, puis moi, ce qui me plaisait, c'est le côté hyper dramatique, toute la mise en scène, le théâtre, tu sais, t'arrives avec la robe de chambre en soie...
Les gens, et Jean, les jamais ça, lui, c'est la mise en scène...
Bon, ben parfait, on va prendre une petite pause, on va aller prendre l'entrée. Jean, c'est important que tu saches que ce soir, tu es non pas le choix de Sophie, mais tu es le choix de Paul.
Oui, oui.
Paul nous a dit, moi, je capote sur Jean. Alors, Paul, tu as l'occasion d'expliquer à Jean pourquoi il t'impressionne autant.
Ben, écoute, Jean le sait un peu, mais moi, c'est grâce à ma femme, Mylène.
Oui.
Mylène, qui est la fan numéro un de Jean au monde. C'est worldwide.
C'est vrai?
Oui, oui.
C'est-tu malaisant? Mylène... Es-tu trop fan ou quoi?
Non, je pense pas.
OK.
Mais Jean, en tout cas, regarde, j'ai beau temps pour le savoir. Mais l'idée, c'est que Mylène, à un moment donné, était productrice et puis a fait un documentaire sur la boxe et a découvert Jean pour elle.
Ah, c'est comme Jean. Ça que ça c'est a commencé? Ça.
C'est toute une histoire, Jean, mais à un moment donné, Mylène est restée, tu sais, pour la boxe, pour ma femme, c'est Jean. Fait que c'est Mylène qui m'a amené au premier combat, à ton premier combat, Jean, contre Diaconou. Quand tu gagné, quand tu es devenu champion du monde, écoute, j'ai eu le privilège d'être là. J'ai compris, moi, j'aime beaucoup Jean, j'aime sa personnalité parce qu'il est flamboyant, mais c'est un gars qui livre. Ce que tu vois, c'est ça.
C'est ça, parce que si t'es flamboyant, il faut que tu livres. Mais ton côté show-off, on te le reproche. Mm-hmm. T'es trop show-off.
On me reproche moins maintenant, là.
Oui, mais maintenant, effectivement. Là,
ben, success is the best revenge, hein?
Ça fait partie du show, c'est ça? Ça fait partie de la boxe?
Ben, oui, ça fait partie de la boxe, mais en même temps, moi, je reste moi-même. C'est pas une game que je joue. C'est que c'est le Jean-Pascal dans un autre état d'esprit.
Ben, c'est ça.
C'est le Jean-Pascal soldat guerrier qui s'en va à la guerre. Mm. Parce que la boxe, moi, je trouve que c'est un peu comme la guerre. Parce que la guerre, tu s'en vas à la guerre, tu sais jamais qu'est-ce qui va arriver et tu sais jamais si tu vas revenir. Mm.
Hey, j'ai des gants à montrer. Parce que Sophie, je sais que j'aime la boxe. Puis à un moment donné, tu as eu un événement caritatif où les gens pouvaient acheter toutes sortes de trucs pour que ça, l'argent allait dans une bonne cause. Puis elle est arrivée, puis elle m'a acheté des gants. Signé, mais c'est pas toi, Jean. C'est pas toi, Jean. C'est signé Joachim Alcin.
Oui.
Puis Otis Grant.
Quand même, hein? Donc, ouais, on tombe dans la portion, on est fans, là. Hey, Jean, ça, c'est mes gants. Écoute, c'est des petits gants de rien d'amateur. Je peux te demander quelque chose?
Ben oui.
Peux-tu me les autographier?
Écoute, t'imagines quand tu vas arriver à ton cours de boxe et que tu vas dire, ils vont dire qu'est-ce qu'il y a écrit?
Je m'en servirai plus, je vais garder les...
Qu'est-ce qu'il y a écrit sur tes gants? Ça va être marqué Jean-Pascal.
Je reviens là-dessus. Toi, t'étais tellement drôle.
Ah non, mais j'étais montée sur ma chaise.
Elle était debout sur la chaise, elle criait « Tu l'es, elle! Elle! » Comme elle était mal, moi, j'en revenais pas, elle était ringside.
Mais attention, genre, Sophie a l'instinct de soi aussi.
Oui, c'est pas mal.
Qu'est-ce que t'as trippé?
Mais je trouvais ça, je suis complètement embarquée. Je veux dire, moi, c'est comme si je regardais un... Tu sais, la comparaison que t'as faite tout à l'heure, t'as dit, c'est comme aller à la guerre. Oui. Et moi, à partir du moment où j'étais dans la salle puis je me disais, je prends pour lui, bien, je voulais que tu gagnes, comme à une époque, on voulait que les forces alliées gagnent contre les nazis. Je veux dire, pour moi, je dis pas que ton adversaire, c'est un nazi, là, mais je veux dire, pour moi, c'était, je te voyais comme un guerrier, tu t'en allais à la guerre, puis j'étais derrière toi, puis je t'ai comme adopté. Mais moi, c'était tout le côté... De la mise en scène. Puis je sais que tu n'aimes pas l'expression show-off, puis tout ça, mais tout le côté dramatique, c'est ça, l'arrivée avec la robe de chambre en soie, les filles, l'entourage. Puis écoute, je m'excuse, mais tu es dans une pièce où il y a des dizaines, des centaines de gens qui t'acclament, qui crient. C'est impossible, je ne pouvais pas rester.
Contre toi,
mais sérieusement, ça, justement, c'est un peu de me ça, c'est qu'en tant que boxeur, tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte.
Pardon?
Tu t'en rends pas compte qu'il y a plein de gens qui t'accompagnent. Parce que t'es tellement dans ta bulle, t'es focus, que t'es concentré, que ça rend pas compte parce que moi, à un moment donné, je suis allé voir les Canadiens, j'étais dans les rouges. Je pense qu'ils jouaient contre Pittsburgh, puis tu sais, c'était plein, là, c'était pack, pack, pack. Puis là, je regarde la glace, je regarde le stand-by, puis je commence à shaker. Hein? Là, je comprenais pas pourquoi je shakais, je commence à shaker. Puis là, j'étais en train de penser que quand que je boxe, il y a tous ces gens-là,
non.
Plus la glace. Là, là, je commençais à shaker parce que je m'avais jamais vraiment rendu compte de ça. Là, je regardais le stand-by, je dis, il y avait 21 000 personnes avec Buté.
Oui.
Il y avait 18 000 personnes avec Hopkins. Oui. Là, j'ai tous ces... Puis c'est la première fois que je m'en rendais compte. Hey. Ouais, c'est la première fois que je m'en rendais compte.
C'est comme si tu te voyais de l'extérieur.
Ouais, exactement.
C'est capoté.
Là, je commençais à shaker, puis...
Mais pourquoi? Pourquoi t'as... Pourquoi
la pression, j'imagine.
Comment?
Mais pourquoi tu shakais?
Je pense devant tous ces gens-là. C'est stressant. C'est, mais c'est juste que...
Mais quand heureusement que tu t'en es rendu compte seulement la fois où tu es allé au hockey.
Ouais,
parce que si, quand tu rentres au Centre Bell, quand tu t'en vas affronter Buté, si jamais, en effet, tu n'es pas dans ta bulle et tu vois le monde, puis que tu entends Sophie Durocher qui te crie « tu l'as ».
Est-ce que tu l'entends, Jean? À un moment ou l'autre, ça devient silencieux dans les combats.
Non, mais tu sais, ta famille, mettons, tes proches.
Il y a des voix spécifiques que je vais toujours... reconnaître, même s'il y a un million de personnes, il y a des voix spécifiques que je veux toujours reconnaître, ma fille, mon frère, des amis proches de moi, mais c'est sûr que je ne peux pas entendre tout le monde, puis anyway, la plupart du temps...
Il ne faut pas que tu fasses distraire.
C'est que si tu commences, si tu entends tous les gens, ça veut dire que tu n'es pas dans ta bulle.
C'est ça.
Parce que tu n'es pas supposé d'entendre les gens, tu es supposé d'être focus, à part les voix spécifiques, n'importe quoi.
On devrait faire ça dans le journalisme. Moi, j'aimerais ça voir Paul sortir à la joute, là, avec un gros manteau, là. Il y a les gens qui crient.
Mais je ferais le même parallèle qu'avec Jean. Parce que si toi, quand t'animes à la télé, que tu te mets à penser, « Hey, il y a en ce moment 800 000 ou 1 million de personnes qui m'écoutent.
Oh, » ouais.
Tu sais, mettons un soir de soirée électorale, là où tu sais que le Québec est rivé à leur écran, si tu commences à penser à ça, tu n'arriveras pas à faire ta job.
C'est ça, il ne faut pas que tu penses à ça. Mais si tu penses à ça, tu n'es pas dans ta bulle.
Tu n'es pas dans ta bulle. Donc, ce sont deux métiers où il faut que tu livres une performance en direct, où tu as énormément de pression, il faut que tu gagnes. Puis il y a plein de gens qui ont les yeux rivés sur toi, mais il ne faut pas que tu y penses surtout. Et le moment où tu commences à y penser, c'est là que tu es foutu.
Ouais.
C'est et vraiment pareil. La fameuse devise d'une publicité des années 70-80, « Don't let them see you sweat ».
Never let them see you
sweat.
C'est un truc pour un désodorisant,
pour
je pense.
C'est un déodorant.
C'est ça.
Il ne faut jamais qu'ils voient que tu as peur et que tu es stressé. Il faut que tu surmontes
Mais la vraie
ça.
Question, là, est-ce que ça t'arrive des fois? Parce que moi... malgré mes dehors quand même de filles rough and tough puis tout ça, j'ai quand même une âme sensible. Est-ce que des fois tu regardes la personne en face puis tu dis je vais est-ce que tu as peur des fois? Est-ce que ça se dit? Est-ce qu'on a le droit de dire ça que tu as peur?
Oui,
des
on
fois?
A le droit, mais moi de mon côté, sincèrement,
j'ai jamais eu peur.
Je suis vraiment fearless. Peut-être oui, des fois tu vas avoir peur de perdre. Puis je pense que des fois, c'est important d'avoir cette peur-là parce que c'est ça qui va te garder alerte.
Mais tu sais, comme je disais, il y a un parallèle entre la boxe et puis nos métiers et puis la vie en général. Moi, genre, ton deuxième combat contre Kovalev, à un moment donné, j'ai croisé Kovalev avant le combat dans les méandres du Centre Bell, tu sais. Puis tu sais, je l'ai vu de proche, tu sais. Puis tu sais, tu me dis que t'as pas peur, mais tu sais, il est impressionnant, Kovalev. Tu sais, c'est un homme qui a l'air méchant. Il a pas l'air smart en termes de gentillesse humaine. Deux, il a l'air méchant. Trois, tu dis, aïe, il a l'air d'un tueur. Il a l'air d'un tueur. Je dis, aïe, mais tu me dis que quand tu arrives dans l'arène, tout ça, à un moment donné, tu dis, t'as pas la crainte pour dire, aïe, il fait mal, ce gars-là. Là, il est dangereux, il peut m'avoir, il peut me tuer. Là.
Ben, pour ce combat-là, moi, comme là, j'étais convaincu que j'allais le battre. C'est entre nous autres. La semaine du combat, vraiment, j'étais confiant. J'ai appelé, il y avait Bet365. Je voulais mettre 100 000 piastres sur moi parce que j'ai dit comme ça.
Mettre 100 000 sur toi?
100 000 sur moi, j'allais faire 800 000.
As-tu le droit?
Mais pas bêter que je vais perdre.
Mais là, il ne faut pas. Là,
non, mais tu as le droit de bêter sur toi.
Oui, ouais, j'ai le droit de bêter
de
sur moi.
De miser sur toi.
De miser sur moi si je dis que je vais gagner. Mais je ne peux pas bêter.
Oui. Tu vas faire, moi,
moi, justement, j'ai appelé. Je voulais mettre 100 000. J'ai mis 50 000. Après ça, la semaine du combat, après ça, j'ai rappelé. Après ça, j'ai voulu mettre un autre 50 000. Tellement j'étais confiant.
Attendez, pour faire l'argent ou pour changer les
mais là, pour gagner.
Non, pour gagner.
Par défi aussi.
Non, c'était pour faire de l'argent parce que j'étais confiant que j'allais gagner puis j'allais faire.
Mais ça, c'est bon. Quelqu'un qui mise sur lui, c'est que tu crois en toi.
Exactement. Ouais,
mais
tu sais,
dans le vrai sens de miser sur soi.
Mais j'ai pas fini de l'histoire, justement.
Ouais,
là, je rappelle, puis je suis pas capable de miser un autre 50 000. Fait que là, j'appelle. Puis là, après ça, je dis, ouais, j'aimerais ça baiser sur moi, je suis pas capable. Tout ça. Là, elle me demande, je suis qui, moi, mes informations. Puis là, eux autres, ils voient que c'est Jean-Pascal. Fait qu'ils ont dit, ah, ben, monsieur Pascal, vous pouvez pas bêter sur vous. Parce que eux autres, qu'est-ce qu'ils sont dit dans leur tête? C'est que s'ils mettent 100 000 sur lui, du 8 contre 1, il doit sûrement savoir quelque chose qu'on ne sait pas. Sûrement qu'il y a une crosse à quelque part. Fait que là, ils ont enlevé mon premier bet de 50 000.
Non.
Ils ont enlevé mon premier bet de 50 000, puis ils ont refusé que je mette un bet de 50 000.
Mais tu peux les comprendre, mais,
ouais,
ça,
oui, mais écoute.
C'est comme un délit d'initié, comme si tu savais quelque chose.
Mais j'ai perdu. Je n'étais pas
content. Tu as sauvé 100 000.
J'ai sauvé 100 000. J'ai sauvé 100 000. J'étais tellement content.
C'est très drôle.
J'étais tellement content. Ah! J'aurais été 100 000 dans le trou!
C'est très bon.
Ça, c'est ceux qui se sont dit, si le gars il pète 100 000 sur lui, là, c'est sûr que c'est quelque chose qu'on sait pas nous autres. Mmh. Il doit avoir une crosse à quelque part, là, tu sais. Mais moi, j'étais tellement confiant que j'allais le battre.
C'est très bon.
J'étais prêt à mettre 100 000.
Hey, je peux-tu poser une question technique à Jean par rapport à Kovalev?
Ah oui, ben oui.
Okay. Kovalev,
on est là pour ça.
Il t'a battu sur le jab, les deux fois.
Oui.
Son jab. Tu n'as jamais été capable de dénouer le jab, de dénouer l'énigme du jab de Kovalev. Mm-hmm. Pourquoi tu penses? C'est quoi? C'est sa portée? C'est sa
capacité? Ben, Kovalev a une très longue portée. Okay. Moi, justement.
Mais tu savais son nom.
Mais moi, pour mon poids, moi, déjà, en partant, j'ai pas un très long reach. Comme on dit en boxe, une longue portée.
C'est-à-dire que ton bras est pas long.
Exactement. Parce que ça, regarde mon poids, il est comme courbé ici. Ouais. Fait que déjà, là, je perds un peu de reach.
Mais c'est parce que c'est trop musclé.
Je sais pas, peut-être que je suis né comme ça, j'en ai aucune idée. Mais en partant, j'ai pas un long reach. Kovalev, il a un très long reach, une très grande portée, plus il a un excellent jab. Puis aussi, c'est un excellent boxeur.
Ouais.
Mais c'est moi, je veux pas lancer des accusations sur personne, mais je doute qu'il était naturel à 100%.
Oh. Ah,
pourquoi,
ouais.
Ah, ouais.
Pourquoi que je dis ça? C'est tout simplement, c'est que moi, je l'ai atteint avec mes meilleurs coups, puis c'était comme si que je frappais comme une mouche.
Qu'est-ce que tu veux dire? Mais il était mou?
Non, c'est que moi, je le frappais super fort avec mes meilleurs coups. Puis, c'est comme si moi, je frappais comme une mouche, ça faisait aucun effet. C'est comme si j'avais mon coup, puis il n'y avait aucun effet.
Comme si c'était l'homme bionique.
Puis là, maintenant, tout d'un coup, le monde le fait mal. Comme Alvarez le fait mal, envoyé au plancher, à son dernier combat, s'est fait faire mal aussi. Puis moi, qui est l'homme, le boxeur le plus comme endurant, le plus tough de la catégorie, j'ai pas été en mesure de prendre ses coups. Là, les Alvarez, les autres boxeurs sont tous capables de prendre ses coups.
Tout d'un coup, là.
Avez-vous des tests inopinés, puis tout ça,
antidoping? Pour le premier combat, on l'a pas eu. Pour le deuxième combat, on l'a eu, mais tu sais, sont venus, je pense, 8 semaines avant le combat. Plus pendant un mois, il n'y a eu aucun test. Fait que je ne sais pas si les tests étaient vraiment accurate, comme qu'on dit.
Ouais.
Mais c'est pour ça que moi, je laisse toujours un bémol sur ces deux victoires contre moi. Parce que moi, je trouve que ça fait pas de sens que... Tu sais, Kovalev, quand il frappait, là, justement, avant le combat, j'avais pas peur de lui. Mais sur le ring, j'avais peur de ses coups de poing.
T'avais peur, hein?
Ouais, puis c'est le seul boxeur que j'ai eu peur de ses coups de poing, que c'était pas...
Il frappait, c'était là.
C'était pas normal.
Ah, ouais.
C'était pas... C'était pas,
c'était pas naturel.
Ouais, c'était pas naturel. Juste au son, tu vois, écoute, c'est ce gars-là.
C'est là qu'il y a eu peur qui
se fasse. Ça s'est fini quoi, au huitième, corrige-moi, Jean? Le deuxième?
Ouais, ou huitième ou sixième.
Moi, je me souviens, Ross Amber, qui est un gars de Montréal, qui est un entraîneur, qui est une sommité de boxe, je me souviens, à conférence de presse après, tu sais, a dit à tout le monde... Il dit, là, vous allez avoir du respect pour ce gars-là en parlant de Jean Pascal parce qu'il vient de confronter le boxeur le plus puissant de la planète.
Pas une fois, mais deux fois.
Ouais, deux fois.
Deux fois.
Il n'a jamais reculé, il ne s'est jamais sauvé.
La deuxième fois, j'ai comme eu peur de battre contre lui la deuxième fois.
Non, c'est moi qui ai demandé le rematch. Oui, c'est moi qui ai demandé le rematch. Puis comme je vous dis.
Non, mais même si tu l'as demandé, tu devais.
Non, c'est la deuxième fois. C'est là que j'avais mis le 100 000. C'est pour le deuxième combat.
Quand t'as peur dans l'arène, Jean, parce que, il faut comprendre, là, tu sais, enfin, faut comprendre, j'ai jamais été dans l'arène devant quelqu'un qui veut me taper dessus. Mais j'imagine ce que c'est. Tu peux pas te sauver, tu sais, pense à ça.
Et des fois, tu t'ennuies de ta mère, quand même.
T'es prisonnier. Mais, Jean, c'est la seule fois que ça t'est arrivé que t'avais peur, OK?
Ouais, c'est la seule fois dans toute ma carrière, je pense dans ma vie, que j'ai eu peur de quelqu'un dans un ring de boxe. C'est Kovalev, puis comme je vous dis, c'est pas normal parce que moi, je suis une personne fearless. Là. Moi, j'ai pas peur.
C'est pas un sentiment agréable, non?
Non, vraiment
là,
pas.
Tu fais quoi? Écoute, t'es pogné avec des.
Exactement, c'est que là, justement, t'as peur, fait que t'es plus hésitant. Tu fais plus de calculs, puis c'est moi, je suis un boxeur d'instinct et tout. Ouais. Donc, quand que tu commences à hésiter, à avoir peur, c'est là que tu vas vers la pente descendante.
Wow! Tu disais que t'as, bon, à part ces deux, que ce deuxième combat-là, tu n'as jamais eu peur. Mais quand tu vois ce qui est arrivé à Adonis, ben, je ne sais pas si vous êtes amis ou pas dans la vie de tous les jours, mais quand même, tu sais, c'est un boxeur, c'est un Québécois. Quand tu vois le gars...
Mais c'est ça, pour vous dire la vérité, qu'est-ce qui est arrivé à Adonis, c'est vraiment... C'est désolant, c'est vraiment triste. Mais c'est moi, comme que je dis, c'est vraiment un accident. Puis comme que je disais à ma mère... c'est pas à cause que ta chum a un accident de voiture demain que tu vas arrêter de conduire ta voiture.
Très bien dit. Mmh. Oui, puis c'est pas parce qu'il y a un avion qui tombe qu'il faut arrêter de prendre des avions.
Schumacher faisait un des sports les plus dangereux au monde.
C'était en ski.
En plus, je pense qu'il n'allait même pas vite. Hein?
Mmh. En ski.
Il n'allait pas vite. Il a tombé, je pense qu'il est tombé sur une roche.
Tu sais, je comprends que ton entourage, des fois, il doit se dire, ben c'est trop dangereux, arrête, fais autre chose, deviens, je sais pas moi...
C'est ça, mais comme je disais à ma mère,
journaliste.
Je suis une personne lucide. Moi, je suis allé...
Ça peut être dangereux.
Moi, je suis allé à l'école.
Oui.
J'ai fait une technique policière au collège Jean-Sic. Donc, tu sais, je suis quand même quelqu'un d'assez intelligent, assez lucide. Alors, j'ai dit à ma mère, quand que je vais sortir que c'est le temps d'arrêter, inquiète-toi pas. J'ai tout de respect pour ma personne. Pour continuer.
Tu vas être capable de faire, Jean.
Oui, parce que j'ai trop de respect pour ma personne, juste pour boxer pour un chèque de paix ou sinon juste pour boxer...
Mais il y a toujours le combat de trop.
Ben ça, ça peut arriver à n'importe qui, mais c'est justement le combat de trop, moi, je vais savoir quand mon corps, je vais sentir qu'il n'y a plus de gaz dans le corps, j'ai plus envie, je vais m'écouter. Parce que,
donc toi, tu ne feras pas le combat de trop.
Je souhaite. Peut-être. Dans la vie, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Mais c'est, on parlait d'Adonis, peut-être c'est son combat trop. Mais c'est à la fin de la journée, peut-être qu'Adonis, on ne sait pas, mais peut-être qu'il était déjà prédisposé à avoir
mais
ça.
Mais Adonis avait peut-être déjà des commotions fragiles. Cérébrales qui additionnaient sans qu'il le sache.
Ça s'est cumulé. Mais c'est intéressant parce que tu dis, ben ça, je me rappelle d'avoir lu ça, que tu as fait ta technique policière. Oui. Tu aurais pu, au lieu de devenir boxeur, tu serais devenu policier. Ben, je veux dire, c'est un métier dangereux où il y a énormément de risques, puis tu peux tomber sur le ring en étant policier.
Tu aurais pas aimé ça, voir Jean-Pascal à l'UPAC, toi?
Avec sa détermination et tout.
Viser haut, pour moi, c'est un mode de vie. Viser l'excellence, un mode de vie. Hmm. Puis quand je voulais être policier, mon but, c'était pas être un simple patrouilleur, c'était de devenir le premier directeur noir du service de police de Montréal. C'était ça mon objectif, si je rentrais dans la police.
Écoute, Jean, après, dans quelques années, là, écoute, l'UPAC, le poste est ouvert. il y a la Sûreté du Québec aussi.
Oui, dernièrement, j'ai vu ça.
Mais non, mais moi, j'adore ça, parce que tant qu'à être policier, c'est certainement pas pour se promener dans les ruelles, arrêter des dealers de crack, là. Donc, ben, ça, il y a être le premier directeur noir de la police, ben, t'imagines, Jean-Pascal?
Ça vient d'où, cette ambition-là? Tes parents t'ont inculqué ça ou quoi?
J'ai ça dans mon ADN, mais c'est mon père qui est décédé au mois d'octobre dernier. C'était un grand homme. C'est un grand homme, puis il m'avait dit qu'un jour, j'allais devenir un grand homme aussi. Mon père, c'est un politicien.
Oui.
Mon père, c'est un homme qui était fortuné. C'est un homme qui avait beaucoup de pouvoir. Il était dans le temps des Duvaliers.
Oui.
Puis quand il y a eu la révolution, c'est le coup d'État, je veux dire. C'est Duvalier a dû quitter le pays, mais lui, il a pu rester parce qu'il faisait du bien. Mon père, il a construit des écoles, il a construit des routes, il a amené l'électricité dans sa région. D'abord, pour vous dire que comment c'est une personne spéciale, c'est qu'il a eu 15 enfants. Mon père a eu 15
avec
enfants.
Avec la même femme ou non, avec 15 femmes non, différentes?
Pas avec 15 femmes différentes, mais pas avec la même femme. Mais il a eu 15 enfants, mais il s'est occupé de tous ses enfants. Il y a beaucoup d'hommes qui font plein d'enfants, mais qui ne s'occupent pas de leurs enfants. Lui, il en a fait 15, puis il s'est occupé de tous ses enfants. Plus, il en a adopté 3. Il a eu 15
donc,
18, enfants.
18, il s'est mis responsable de 18 enfants.
Il y en a un qui est mort, malheureusement, quand j'étais jeune. Mais je les connais tous. Là, quand on a été au funérailles de mon père, c'est mon père quand il est mort, il y a eu des funérailles d'État. C'est un député, il était vraiment, tu sais, comme je vous dis, tellement qu'il était bon, c'est qu'il a fait tous les régimes. Quand Duvalier est parti, il y a eu un nouveau gouvernement, mais lui, il a été élu quand même dans son comté. Même quand que Jean Bertrand est resté, était arrivé au pouvoir, ils ont fait des magouilles, puis mon père a perdu les élections. Le peuple est sorti. Puis on dit impossible, on a tous voté pour lui, puis ils ont dû remettre mon père à son poste.
Incroyable.
Ils ont dû remettre
comme
mon père.
Député,
ouais. Puis après ça, ils l'ont nommé, je pense, président de la Chambre des députés ou
de l'Assemblée nationale,
exactement.
Alors, écoute, anecdote.
Oui.
On va revenir à ton père, mais tu parles de Jean-Bertrand Aristide. Il y a eu un premier coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide en 1991. Mm-hmm. J'étais là et je couvrais ça pour le journal La Presse. Il y a eu un deuxième coup d'État contre Jean-Bertrand Aristide beaucoup plus tard, en 2004.
Ouais. J'étais là.
Paul Larocque était là et il couvrait ça pour TVA LCN. C'est quoi les chances que tu aies deux personnes qui aient couvert deux coups d'État contre Jean-Bertrand Aristide à la même table que toi, dont le père a été député en Haïti? Capoté quand même.
C'est le monde épicé. Ouais. Je veux dire, c'est pour ça que... Puis mon père, c'est une bonne personne. Il avait un grand cœur. Il était loin d'être parfait. Il était loin d'être parfait, mais par contre, c'était une bonne personne. Il avait un bon cœur, un grand cœur. Puis je crois que j'ai pris ça de lui. C'est pour ça que, tu sais, des fois, je me dis souvent, tu sais, pourquoi je suis accessible aux gens? Pourquoi je suis gentil avec les gens? Parce que, tu sais, si on ne me connaît pas, on va penser que je suis arrogant, je suis comme ça. Mais dès qu'on apprend à me connaître, on voit que je suis une personne très gentille, très humble. Je vais parler avec tout le monde, je ne me prends pas pour un autre. Puis, tu sais, des fois... T'sais, moi, je ne me considère pas comme une star, mais t'sais, des fois, quand tu es une star, il faut que tu mettes une genre de barrière avec les gens. Puis moi, il n'y en a pas de barrière. Moi, je suis gentil avec tout le monde, je charle les mains avec tout le monde, mais j'ai pris ça de mon père. Moi, mon père, c'était un policier pour son peuple.
Proche des gens, proche du peuple.
Puis c'est là que j'ai compris, quand je suis retourné en Haïti, c'est là que j'ai compris beaucoup comment j'étais et pourquoi j'étais comme ça.
Est-ce que c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte une fois que ton père était mort
Oui, malheureusement. Parce que moi, mon but, c'est que je voulais retourner en Haïti, mais avec la ceinture de champion du monde. Fait que c'est pour ça que je retardais toujours mon retour. Parce que depuis que j'ai quitté, je n'ai jamais retourné. La première fois que j'ai retourné, justement, c'était pour la mort de mon père. Puis je me rappelle, pour mon combat contre Bivol, j'étais à Porto Rico. Je boxais pour le championnat du monde. Puis là, je m'avais dit que coûte que coûte, victoire pas victoire, coûte que coûte, je retourne en Haïti. Ceinture pas ceinture, parce que mon père, il est vieux, il est malade, on ne sait pas combien de temps il lui reste, mais coûte que coûte, il faut que je retourne en Haïti voir mon père. Puis cette soirée-là, je ne sais pas pourquoi, je pensais beaucoup, beaucoup à lui. Puis, je pense que c'était comme 1h, 2h du matin. Je ne dormais pas encore. Je pensais à lui. Puis, je me disais, coûte que coûte, il faut que je retourne en Haïti. À 5h du matin, j'ai reçu un appel. il était décédé.
Voilà. Fait que
de mon camp d'entraînement de Porto Rico, j'ai dû me rendre en Haïti pour 3-4 jours pour les funérailles. Et ensuite, je suis retourné à Porto Rico pour terminer mon camp d'entraînement pour mon combat qui était au mois de novembre. Donc, je n'étais pas dans la situation idéale.
Ouais. Tu es allé là avant d'avoir...
Mais c'est bizarre quand même que tu aies ressenti ça, ouais, que tu aies une pensée si forte pour ton père, alors qu'il était peut-être en train justement de donner son dernier souffle.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Mais concernant Haïti, je vais raconter une histoire que Sophie ne racontera pas. Parce qu'elle est humble. Mais tu sais, Jean-Bertrand Aristide, les proches de Jean-Bertrand Aristide, tu sais, ils mettaient des pneus. On appelait ça
le père Lebrun,
pneus autour sur la tête des gens, puis qu'ils mettaient en feu.
C'est de l'essence dans c'est
ça. C'est un scoop. Tu sais, c'est une histoire qui a fait le tour du monde. C'est Sophie qui a sorti ce scoop-là. C'est Sophie qui a sorti ce scoop-là.
Bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais donc à Port-au-Prince pour le coup d'État. Et je parlais à plein de monde, j'allais partout, j'allais à Pétionville, j'allais dans les quartiers les plus pauvres, les quartiers les plus riches. Et plein de gens me parlaient de ça, me disaient, il faut que tu ailles voir à la télévision nationale, il y a un discours que Jean-Bertrand Aristide a fait, où il fait l'apologie du père Lebrun. Puis là, je me disais, ben voyons, c'est impossible. Alors, je me suis rendue à la télé nationale, j'ai fait sortir, selon les dates que les gens m'avaient données et tout ça, et j'ai fait sortir le discours j'ai fait une transcription mot à mot de son discours.
Quel beau supplice, quel beau châtiment.
C'est et ça écoute, qu'il disait Aristide. C'est quand même une victoire personnelle parce que bon, j'écrivais pour la presse à ce moment-là. Donc j'écris mon texte, j'envoie ça à la presse, ça fait la une du journal La Presse.
Parce qu'il faut le soir même. Il faut rappeler que Jean-Baptiste Aristide était vu quasiment comme un saint à l'époque.
Ah oui, mais tout à fait. Les gens l'adoraient.
Les gens ne pouvaient pas croire qu'il disait ce genre d'affaires-là. Donc, toi, tu arrives...
Un prince salésien qui étudiait à Montréal, ici, d'ailleurs.
Et à ce moment-là, il y avait évidemment plein de journalistes d'un petit peu partout à travers le monde, mais surtout beaucoup de journalistes québécois, parce qu'on sait les liens qu'il y a entre Haïti, la communauté haïtienne et le Québec. Et le soir même, à Radio-Canada, Jean-Michel Leprince, qui était le correspondant... De Radio-Canada qui avait été envoyé sur place, il avait le clip je l'avais sorti le matin même. Il a fait le même voyage que moi, il est allé à la télévision nationale et il a sorti ça. Puis j'ai croisé Jean-Michel, bravo, Jean-Michel là. Me l'a dit, il m'a dit c'est grâce à toi qu'on a sorti cette histoire-là.
Tu sais que quand on y parle, c'était le début de la fin d'Aristide en termes d'image, tu sais, la compréhension, la perception
totalement.
Des gens.
Mais moi, j'ai jamais eu... On parlait tout à l'heure de la peur. Jean, tu parlais de la peur. Moi, j'ai jamais eu aussi peur de ma vie que quand j'étais en Haïti pour le coup d'État. Parce qu'à un moment donné, je travaillais avec un autre journaliste québécois.
Quelle année c'était, Sophie, ça?
1991. Et à un moment donné, on était proche de l'aéroport parce qu'il y avait beaucoup de gens de proches d'Aristide qui fuyaient le pays, donc qui essayaient de prendre l'avion, mais l'aéroport était vraiment fermé et tout. Et à un moment donné, donc on est dans une Jeep et tout ça, et là, on a été pris vraiment dans des tirs. Et quand j'ai lu, toi, ce qui t'est arrivé en 2004, t'as vécu exactement la même situation que moi, d'un moment donné, d'être pris dans des tirs. Et c'est là, cette journée-là, que j'ai compris que j'étais pas faite pour faire de la couverture internationale.
Je suis fier de toi.
T'es super
c'est
gentil.
C'est un scoop important que t'es sorti.
Mais c'était très particulier parce que, donc, mon nom était dans le journal. Et il y a beaucoup de partisans d'Aristide qui étaient super fâchés contre moi que j'ai sorti ça. Puis comme il y a une grosse communauté haïtienne à Montréal, les gens ont su à quel hôtel j'étais. Donc, à un moment donné, je retourne à mon hôtel.
Pas vrai.
Et il y avait une note en disant « On sait à quel hôtel vous êtes, etc. On pense que ce serait peut-être mieux que vous partiez. » Et à la presse à Montréal, ils recevaient des appels de la communauté haïtienne en disant « Comment avez-vous publié quelque chose comme ça? Sophie Durocher, c'est une tonton m'écoute. Enfin, les gens m'associent avec Duvalier.
Ouais, à l'époque, ouais.
Et j'ai quitté pendant la nuit. J'ai pris une voiture, hein? Puis j'ai été obligée de quitter pendant la nuit. Puis je suis partie en République dominicaine. Puis j'ai pris un avion, puis je suis retournée à Miami. Ouais. Ben, j'avais trop peur, ma sécurité était menacée.
On parle beaucoup de...
Bon, une longue histoire
courte. Jean-Claude Duvalier, les Tonton Macoute. Ouais. Mais si on regarde, ça a été les meilleures années d'Haïti. Le pays était sécuritaire. Ouais. Oui, ils géraient le pays avec une main de fer, mais le pays était fonctionnel. Tout le monde mangeait à leur faim. Les gens allaient à l'école. Le pays se développait aussi. Depuis que Duvalier a quitté...
Mais c'est tragique quand même.
Haïti...
ouais. C'est de crise en crise.
Mais c'est le régime Duvalier était terrible aussi. Faut le dire.
Il était
terrible.
Il était terrible.
Implacable. C'est-à-dire, il y avait de la police politique. La liberté d'opinion n'existait pas.
N'existait pas. D'ailleurs, c'est le père, si je ne me trompe pas, de Michael Jean, qui avait été emprisonné parce que c'est sous les Duvaliers. Même Danny Laferrière, c'est quand même à cause des Duvaliers qu'il a été obligé de quitter.
Le fils était moins pire, c'est sûr.
Ouais.
Le père était implacable. Mais effectivement, il y a beaucoup d'Haïtiens qui
disaient
le pays était structuré, organisé, beaucoup plus
C'est comme quand les gens disent « sous Pinochet, les trains arrivaient à l'heure
».
Moi, c'est mon père, justement, on parle de Docteur François Duvalier, mon père, il était le bras droit de François Duvalier. Et ensuite, il est devenu le bras droit de Jean-Claude Duvalier.
De Baby Doc.
Ouais. Ah ouais. C'est mon père, justement. J'ai jamais compris pourquoi il ne s'est jamais présenté à la présidence. Mais qu'est-ce que j'ai appris avec le temps, c'est que des fois, c'est toujours mieux d'être le numéro 2 que d'être le numéro 1. Parce que quand tu es le numéro 1, on veut toute ta tête. Si on veut ta tête, des fois, mon père, justement, c'était... Comme François ou Jean-Claude, c'était l'homme dur. Mon père, lui, c'était comme l'homme du peuple. Quand il y a eu le coup d'État, le peuple brûlait les maisons des dirigeants. Puis, rendu à la maison de mon père, ils sont arrivés.
Pas lui.
C'était un bon gars. C'est pour ça que mon père n'a pas eu besoin de fuir. Rendu à sa porte, on dit non. Cette maison-là, puis a été brûlée la maison à côté.
Si Haïti souffre autant, c'est que toutes ces élites sacrent le camp, puis ils restent pas pour essayer de reconstruire le pays, Toi, ton père est resté.
Oui, mon père est resté.
Il aurait pu sacrer le camp, mais
mon père, par exemple, c'était pas un intellectuel. Mon père, c'était plus un homme de terrain.
Okay.
C'était un homme de terrain, c'était un homme qui était proche du peuple. Même là, j'ai des photos de lui, là, il est tout habillé avec un costume blanc, veston cravate blanc, puis il lance de l'argent, des billets américains dans la foule. C'est vraiment un homme de terrain, un homme du peuple.
Puis quand tu es retourné, donc en Haïti, parce que tu t'as quitté à 4 ans, tu n'étais jamais retourné avant, donc quand tu es retourné en Haïti pour les funérailles de ton père, qu'est-ce que tu as appris sur ton père que tu ne savais pas? Dans le regard des autres, dans le regard des gens qui avaient autour.
Pour vous la vérité, j'étais vraiment étonné comment il était aimé. Moi, je suis allé là, puis les gens, il y avait des banderoles dans la ville. C'est adieu Pascal. Il y avait des gens qui avaient des chandails de mon père. Il y a eu des fanfares, même sur les maisons des gens, il y avait des pancartes « Adieu Pascal ». J'avais vraiment été étonné. Puis après ça, quand que les gens…
Mais ça devait être tellement touchant pour toi.
Définitivement, parce que moi, je savais pas tout ça. Mon père, je savais que oui, c'était un politicien et tout, mais je connaissais pas l'impact qu'il y avait eu sur…
Il y a beaucoup de nostalgie aussi en Haïti en ce moment, mais c'est normal, parce que la réalité, c'est que le pays n'a pas arrêté de se dégrader depuis l'arrivée d'Aristide, moi j'appelle ça l'échec d'Aristide. T'sais, parce que Aristide a tellement inspiré les gens et ils se sont dit, les Haïtiens, enfin...
Le sauveur!
Oui, dans tous les sens du terme, presque biblique, là, malheureusement. Et puis, il s'est avéré encore plus tordu.
C'est
un illuminé. Il y a des gens qui vont peut-être nous entendre, qui ne m'aimeront pas. Mais c'est l'opinion que je me suis faite, parce que je suis allé à plusieurs reprises. Quand il a été élu la première fois, moi, je l'ai rencontré, j'ai fait une entrevue avec, j'étais à CGMS dans le temps, Sophie.
Ah,
la première
fois,
l'élection était le dimanche, le lundi, Et le dimanche, je l'ai rencontré chez Gladys Lauture, qui était la seule grande bourgeoise qui l'appuyait. Et puis, il était étrange, Aristide, t'sais. Mais c'est un prêtre salésien, propre, pas corrompu, qui était pour remettre de l'ordre dans le pays et tout ça. Et quand tu regardes à la fin de son régime, écoute, c'était pire.
Ben oui.
Que quand il est arrivé.
Moi, je pense qu'au début, il y avait des bonnes intentions. Ouais. Mais des fois, quand tu arrives au pouvoir, il y a les gens, tu sais, le 1% du 1% qui dirige le pays ou qui dirige le monde, qui l'a probablement corrompu.
Qu'est-ce que tu voulais faire, jeune?
Moi, j'ai une particularité. Je suis né à la fin novembre. Fait que j'ai eu une dérogation pour entrer à l'école jeune.
C'est ça. Moi, j'ai manqué une année, justement, quand j'étais en octobre.
Ah oui, fin novembre.
Normalement, t'aurais dû manquer un année comme moi.
J'étais beaucoup plus jeune que ceux qui étaient à l'école. Mmh. Et là, moi, dans ma génération, je ne sais pas, Richard, si tu as vécu ça, Sophie, puis Jean, mais moi, à l'époque, il y avait une septième année au primaire. Et j'étais à Val-d'Or, en Abitibi. Et puis, écoute, j'ai été comme coopté en sixième année. Ils nous ont fait sauter la septième année. Les autres la faisaient. Mais moi, j'étais dans la gang de cobayes. Là, okay. Fait que je me suis retrouvé au secondaire. Mais là, dans le fond, j'avais 2 ans de plus jeune
que les autres.
Que tout le monde.
Deux ans?
Et je me suis retrouvé, j'ai les cheveux gris, c'est pas pour rien. Je me suis retrouvé au classique, avec des cours de latin. Des cours de latin,
le
grec.
Le cours classique.
Ça, ouais, c'est ça.
Pourtant, tu n'as rien que 3 ans de plus que moi. Là.
J'ai 61. J'ai 61, 58, c'est ça. Ouais. Mais bref, je me suis retrouvé au cégep à Jonquière parce que le choix que j'ai fait, écoute, j'avais 15 ans. On a déménagé de l'Abitibi à Pierrefonds. Et il faut que tu fasses ton choix pour entrer au cégep. J'ai hésité en 2 choses. Le droit ou le journalisme.
Mais t'aurais fait un sacré bon avocat.
Mais là, j'ai 15 ans pour prendre cette décision-là. Tu sais, mais c'est pas grave. Tu sais, c'est cool. À l'époque, moi, à mon époque, tu sais, ça allait bien. L'économie roulait. Puis,
c'était l'époque du peace and love.
Ah oui,
non, mais écoute, honnêtement, moi, j'étais à la fin de ça, du mouvement.
Ouais.
À la fin de ça, mais c'était encore dans l'air du temps un petit peu.
Tu sais, l'économie allait bien.
Oui, oui, puis tu sais, c'était pas grave. Mais là, j'ai 15 ans. Et là, je suis accepté au cégep de Jonquière en communication à l'époque, journalisme, et en droit au cégep du Vieux. Et là, écoute, j'ai gros 15 minutes pour décider, puis je choisis le journalisme. Puis je ne l'ai jamais regretté.
OK, jeune de choisir journaliste.
Jeune.
C'est pas un accident qui t'a amené là.
Mais je me suis retrouvé au cégep de Jonquière et j'avais 15 ans.
Incroyable. Au cégep 15 de Jonquière. Ans au cégep.
J'étais le plus jeune au cégep.
15 ans au cégep.
À 15 ans au cégep, j'étais à 300 km.
Est-ce que des fois, tu te demandes comme ça, qu'est-ce que tu aurais pu faire si tu aurais été avocat ou…
C'est une bonne question.
Ça t'arrive jamais? Ça t'arrive jamais de penser à ça?
Je te demande pas des fois si t'as pas pu être journaliste parce que tu poses des bonnes questions.
Ah, c'est bon!
Non, moi je me demande si j'aurais pu devenir le premier noir directeur de service de police. Parce que là, il y a eu un premier noir directeur de service de police de Toronto.
C'est vrai,
là, il vient d'avoir le premier noir du directeur de service d'Ottawa.
D'Ottawa.
Fait que là, le prochain, ça va être Montréal, là, dans une couple d'années, là, dans 10-15 ans.
Tu sais, t'as eu un GLAD, mais il n'est jamais devenu chef de la police.
Non, il
est monté, il était numéro 2, je pense, à un certain moment. Haïtien.
Mais je trouve ça très
d'ailleurs,
intéressant.
D'ailleurs, le père de Dominique Anglade.
Ah oui, c'est ça, mais je ne savais pas. Qu'est-ce qui te faisait triper dans le métier de policier?
Tout simplement, c'est que, comme je dis, à cause de mon père, je suis une personne de terrain, qui aime aider les gens, qui aime. Fait que moi, c'était pour aider les gens. C'était beaucoup plus. La prévention que de la répression, disons. Donc, c'était mon côté comme que j'aime aider les gens, que j'aime être avec le public.
Communautaire, là, c'est tout, ça, avec le monde. Hein,
ouais. Par altruisme,
puis
en
là,
fait,
là, de puis là, maintenant, tu sais, plus en plus que je vis, je me dis, vu que j'ai ça dans mon sang, peut-être la politique...
La politique.
C'est-tu
quoi?
Parce que j'ai ça dans mon sang, je veux pas. Donc, je me dis,
est-ce que t'aurais...
Mais Sophie,
éventuellement, penser à cette option-là de te lancer en politique du vivant de ton père?
Non, parce que ça ne m'intéressait pas vraiment, la politique.
Il n'était pas prêt.
Mais aussi, j'étais plus jeune aussi, mais en écoutant beaucoup Paul le midi, écouter la joute et tout, puis tu sais, veux pas, je l'ai dans mon sang.
Mais il y a un côté combatif en politique. Oui, il y a un côté, c'est un combat, là.
Mais tu sais, t'as des sportifs qui font de la politique en ce moment. Tu sais, t'as Ciccone, qui est du Parti libéral. T'en as eu ailleurs
de
aussi.
Jesse Ventura, c'était fini.
Oui. Absolument. J'ai remarqué une chose. Les meilleurs politiciens, c'est ceux qui sont tombés une fois, des fois deux fois.
Et qui ont fait un comeback.
Mais non seulement ils ont fait un comeback, mais qui l'ont fait de la bonne façon et pour les bonnes raisons.
C'est-à-dire qu'ils ont appris leur chute.
Qui ont appris des erreurs qu'ils ont faites. Et ça demande beaucoup d'humilité, tu sais, parce que c'est pas évident, là. Tu acceptes que tu t'es retrouvé au plancher. Oui, là, écoute, je me suis retrouvé. Tu sais, dans le cas de la boxe, quand tu perds, tu perds. Mais en politique, tu te fais sacré dehors, t'es humilié, puis personne ne veut te voir. Je sais pas, Jean, pour toi.
Un bel exemple de persévérance que je passais à ça dernièrement, je ne sais pas pourquoi, c'est... j'ai un blanc de mémoire.
Donne-nous des indices, on va t'aider à le retrouver.
Ouais, non, c'est à Québec, notre premier ministre.
C'est Legault.
Ça, là, c'est un bel exemple de persévérance. Ouais. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, je pense qu'il était ministre de l'Éducation.
Absolument.
Il a commencé
ça. Au PQ.
Au PQ, il a toujours voulu être chef. Il s'est fait tendre par Mme Marois plusieurs reprises. Ça n'a jamais marché. Après ça, il a créé son propre parti. Au début, ça n'a pas fonctionné, il a perdu.
Au début, les gens...
Puis il a persévéré, exactement, il a persévéré. Puis maintenant, il a gagné.
Quand il est arrivé,
l'importance de la persévérance.
Persévérance,
puis de croire en soi.
Puis, mais tu as tellement raison, parce que en tout dans la vie.
C'est ça.
La vie, c'est ça. Parce que, je ne veux pas faire une catégorisation d'être humain, mais tu dis que si tu as un effort à apporter dans la vie, c'est de continuer, de te forcer. Écoute, t'as le goût de lâcher, lâche pas.
Mais
c'est quoi? Mais c'est facile à dire, mais le faire.
Ben, je vous entends, là, puis on a des enfants, tu sais, c'est comme... Tu sais, c'est rien que... Je vous entends, puis moi, j'ai peur pour les jeunes. Tu sais, vous avez vu mon fils, la génération. Tu sais, c'est comme... Je les appelle les petits lapins, tu le sais, la poêle. J'écris souvent sur les petits lapins. C'est des gens qu'on protège énormément. Ouais, on les protège.
Mais c'est tellement père-poule.
C'est pas bon de les protéger.
Non,
parce qu'il faut qu'ils tombent en bas du vélo. On est là, on les protège. Tout. C'est pas un service alors.
Non, mais moi, j'ai une fille de 16 ans. Non,
que tu élèves ça,
ouais, que j'élève ça. Je suis père célibataire, monoparental, comme on dit. Mais non, laisse-la suivre. T'sais, moi, je l'ai eu dur, la vie. T'sais, malgré que mon père était fortuné, mais j'ai vécu avec ma mère. Je l'ai eu dur. Puis, tu sais, des fois, c'est ça que je vois ils sont trop, trop bien. Puis, ils ne savent pas la chance. T'sais, moi, comme que j'expliquais à ma fille, j'ai partagé ma chambre avec ton oncle, qui est mon frère. J'ai partagé ma chambre avec lui jusqu'à l'âge de 19 ans.
T'avais zéro intimité,
elle,
là.
Elle a sa propre toilette dans sa chambre depuis l'âge de 6 ans.
Il faut qu'ils connaissent des échecs. C'est comme ça qu'ils deviennent plus forts.
C'est avec les échecs. Moi, c'est vu que je suis père monoparental, tu sais, le côté c'est matrimonial, maternité, je ne l'ai pas partout, je suis zéro. T'sais. Moi, je suis l'homme, tu sais. Puis, à chaque semaine, je vois une psychologue avec ma fille.
T'es sérieux?
Ouais, depuis un an. Puis maintenant, je vois la différence. Puis je trouve que ça l'a beaucoup aidé à prendre confiance en elle. Puis ça m'a beaucoup aidé dans ma relation avec elle, père et fils, je veux dire. Donc, c'est vraiment...
Mais écoute, là, on ne change pas un boxeur qui dit qu'il va avoir un psy.
Non, mais c'est
là,
tu vois,
c'est...
Moi, j'accroche exactement à la même chose. Parce que c'est-tu quoi, Jean? Il faut beaucoup d'humilité pour faire ça, tu sais. Pour aller chercher de l'aide, tu sais. Écoute, le gars, c'est un champion. Puis, regarde, il est beau, il est grand, il est fort.
Mais il va chercher
de l'aide parce qu'il n'a pas tout à fait ce qu'il faut. Admettre que tu n'as pas tout à fait ce qu'il faut pour faire face à une situation donnée. Moi, je trouve ça admirable. Tu sais, il faut avoir... l'humilité dans la vie pour reconnaître que tu n'es pas équipé dans tout, dans toutes les sphères. Puis surtout quand il vient temps d'éduquer des enfants. Moi, j'ai commis des erreurs avec ma fille, beaucoup. Je l'ai surprotégée. Écoute, ma fille voulait telle affaire, puis je le faisais pour elle. Je suis du type psychologique des organisateurs. On me pose un problème, moi, je suis tout de suite dans la solution. Troisième coup d'échec après, puis... Alors que, écoute, après,
ça part de bonnes intentions.
Ouais. Je sais,
ça
mais c'est pas bon. Intentions. C'est pas bon tout le temps. Mais, je l'ai appris, moi aussi. Moi aussi, j'ai consulté. Là.
Mais ce que je trouve formidable, bien là, on a deux gars autour de la table qui disent qu'ils ont consulté. C'est assez surprenant, mais c'est tellement 2019. Mais surtout, c'est le fait que toi, t'es un gars, c'est la force, mais de dire qu'on va aller chercher de l'aide, c'est admettre qu'on est vulnérable. C'est ça qui est admirable, parce que si t'étais comptable, on ne serait pas là en train de s'extasier en disant « Oh mon Dieu, il est allé voir un psy avec sa fille. »
C'est
le fait que, justement, l'image publique que tu projettes, c'est une image de force. Ouais. Donc, d'admettre cette vulnérabilité-là, c'est tout à ton honneur.
L'humilité.
Alors, avant de passer au dessert, Paul, si tu le permets, j'aimerais trinquer un absent qu'on a beaucoup aimé, tous les trois, peut-être Jean aussi. Et moi, il n'y a pas une journée qui passe où je ne pense pas à Jean, Jean Lapierre. Et chaque fois que j'ai du fun dans la vie, que je m'amuse, qu'il se passe des beaux moments, je me dis, c'est plate, Jean Lapierre n'est pas là pour vivre ça. Alors, je pensais que c'était important ce soir.
C'est beau, ça m'émeut encore. Qu'est-ce que tu veux? The show must go on. Hier, j'étais à la joute, puis Dimitri Soudard, c'est l'ancien conseiller d'Harper, et maintenant un jouteur. Puis il a commencé en disant, parce que Soudard, conservateur, c'est un gars que Jean Lapierre a aidé beaucoup. Okay. Jean était un libéral, évidemment, de sa famille politique, mais tu sais, écoute, c'est pas grave. N'importe qui faisait de la politique, qui était en politique, il donnait un coup de main, il était plus dans le game, puis...
Il les rencontrait,
un mentor pour tout le monde, tu sais, puis au plan humain, puis au plan... politique aussi. Fait que Soudard, c'est comment... Tu sais, je pose une question super pointue, gars, le show, on est là. Je dis, d'abord, j'aimerais dire une chose, ça va être la première campagne fédérale sans Jean Lapierre, tu sais, puis... Tu sais, écoute, moi, je suis en onde en direct, tu sais, puis écoute, j'ai le moton. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? C'est vrai que j'avais pas vu venir, je pensais pas qu'il
Et c'est vrai?
Ça. Ouais, c'est vrai.
Ça va être la première campagne fédérale sans Jean Lapierre.
Ben, tu sais, écoute, tu perds ton body. Tu sais, qu'est-ce que je te dis? Tu perds ton body. Ça m'est arrivé, ça arrive à tout le monde.
Ben, c'était plus qu'un confrère de travail. Là.
Oui, oui, c'était un grand chum. Tu sais, je veux pas dire autre chose que ça. Tu sais, à un moment donné, j'ai vécu des épreuves dans ma vie, puis, tu sais, Jean Lapierre est à côté de moi. Tu sais. J'en parle, puis, mais je reviens à l'essentiel. Quand il décède fin mars, avant ses funérailles, je parle à sa mère que je ne connaissais pas. Je lui ai parlé, puis je lui ai promis d'aller la voir l'été suivant, tu sais, en juillet. J'arrive aux Îles-de-la-Madeleine. Et j'arrive là où ils sont enterrés, Jean et frère et sœur et son père, tu sais. Parce qu'il faut connaître l'histoire, là, tu sais. Son père décède. Jean revient de vacances. Le dimanche, il m'appelle. Il est de retour, il m'appelle. Et là, il me raconte que son ami lui prête son avion, ils s'en vont aux Îles-de-la-Madeleine. Je lui parle, mon tir est à la table, puis il me raconte qu'il organise, puis Jean, son organisateur, Puis le gars, au lieu de prendre Air Canada, je m'en vais avec l'avion de mon ami, puis bon, puis il me prête son avion, puis là, je peux amener mes frères et sœurs, puis ça va coûter moins cher, mais surtout, on arrive plus vite, puis bon, Puis tu sais, Jean, tu sais, il opère. Moi, je pose la question, je dis, c'est correct, Jean, là, mais écoute, ton père vient de mourir. Comment tu vas, toi? Comment tu te sens? T'sais? Silence. Deux secondes, trois secondes. Et il dit, écoute, ça fait mal, ça frappe. Jean parlait comme ça, ça frappe en calice. Puis il dit, sais-tu quoi? Il dit, je réalise, là, le prochain, c'est moi.
Il t'a dit ça.
Attends.
Puis tu sais, je fais une histoire courte, là, juste pour vous dire une chose, c'est que à ce que ça arrive, et puis vous connaissez l'histoire, là, le fond de l'histoire, mais parce que je vais arriver à la fin juillet de cet été-là, et là, j'arrive, puis je rencontre la mère de Jean pour la première fois, Lucie Cormier. Jean-Pascal est un des êtres les plus courageux que j'ai vu de ma vie, de mon vivant. Avant toi, Jean, il y a Lucie Cormier, c'est son nom. Elle a perdu son mari et quatre enfants. C'est la femme la plus résiliente, la plus forte que j'ai connue de ma vie.
Une journée, deux jours après, quoi, trois jours après, elle perd quatre enfants.
Quatre enfants,
et quand tu l'as vue, elle était comment?
Parce que je ressemble un peu à Jean, tu sais, puis tu sais, écoute, tu sais, la roque, la pierre, tu sais, qu'est-ce que tu veux, c'était
aller
ensemble à l'époque. Fait que, tu sais, écoute, tu sais, pour elle, c'était terrible parce que ça la ramène, tu sais, tout la ramène à ça, mais écoute, tu sais, on s'est tombé dans les bras, puis on n'a pas parlé pendant cinq minutes, là, tu sais, ça... J'ai pleuré, ben ça fait se faire d'autres. Là, c'est tout, mais après ça, on s'est parlé, on a ri. Puis Laure, la sœur de Jean, la seule qui a survécu, était là aussi. Puis bon, et puis, mais ce que je veux vous raconter, c'est que là, je me disais, c'est sûr, moi, j'ai de la peine. Là, c'est moi, j'ai perdu mon chum. Mais là, j'ai la mère de Jean Lapierre. OK? Puis je lui ai dit, ce moment-là, j'ai dit, Lucie, vous êtes la mère puis la grand-mère de tout le monde au Québec. Tellement vous êtes forte, vous êtes grande et vous êtes digne, tu sais. Le dimanche, on va à la messe, à l'église, au bassin. Là. Tu sais, le bassin, c'est une petite île où Jean est enterré, puis tout ça. Je fais l'histoire courte, je raccourcis. Fin de la messe, on sort, puis là, évidemment, on va aller au cimetière, tu sais. J'ai Lucie dans ma main, tu sais, on se tient la main comme ça, puis on monte, tu sais, puis c'est une marche d'à peu près 30 secondes là, pour monter. Et on voit, il n'y a pas eu de pierre tombale encore, là, en pierre, c'est en bois, là, tu sais, puis c'est écrit à la main, en fait. Puis là, tu sais, je suis là, c'est sûr, j'ai de la peine, je suis ému. Mais là, j'ai Lucie Cormier à côté de moi, là. Elle est forte, là. Elle est forte, là, tu sais, elle me tient, là, tu sais, puis comme ça. Là,
je me suis dit,
je suis qui, moi?
Elle a perdu son mari.
Non, mais je suis qui, moi, pour me laisser, pour m'apitoyer sur ma peine à moi. Puis j'ai Lucie Cormier qui a perdu son mari et 4 enfants, puis qui guide tout le monde, puis qui dit, il faut passer au travers. Puis c'est ça. Puis c'est la plus grande leçon de courage de ma vie. De ma vie. De ma vie.
Mais, hein? Avec quel âge?
Lucie, elle a 80 maintenant. Non, je dirais pas son âge parce qu'elle est coquette. Ah!
Je boxe non. pas, souvent, j'ai souvent dit aux gens, là, je boxe pas pour l'argent. Puis la preuve, c'est que je suis allé à Miami, j'étais boxé pour 25 000 $.
$25 000
Dans la jungle, à peu près.
Il y a certaines personnes qui vont dire
hey, c'était où ce trou-là?
C'était à Ilea, je pense, à Miami.
Il paraît que ça faisait
mais parce que tu considérais que c'était la chose à faire à ce moment-là
exactement,
pour toi.
Exactement, parce qu'il y en a qui vont dire hey, 25 000, il y a besoin d'argent.
C'est là que tu as slogué le jeune là, qui était en ascension.
Exactement, hein. Exactement. Moi, justement, si c'était pour. Tu sais, j'ai déjà fait des millions dans ma carrière, puis là, tu boxes pour 25 000.
Et comment t'étais le combat? Moi, je vais poser la question. Écoute, toi, t'arrives, là, tu te sens comment? Là? Tu l'as slogué.
Non, mais comme tu dis, je me sentais un peu dérespecté. Le monde me manquait de respect un peu. Je suis ancien champion du monde. Le gars, il a son nom en premier. C'était comme Ebiali versus Pascal. Il était à gauche du poster. Moi, j'étais à droite. Ça, les gens qui sont à gauche, c'est le favori. C'est le champion.
Ah toujours, oui, c'est ouais, comme ça que ça marche.
C'est à marketing parce qu'on se rappelle toujours plus du côté gauche que du côté droit.
Ah.
Fait que c'est une question de marketing.
Richard, la gauche, ça c'est vertu.
Puis, tu sais, moi, c'est 25 000 $. C'est pas une question que j'avais besoin d'argent, c'est juste que moi, je m'en foutais de l'argent. C'est que je savais que ce gars-là, je pouvais le battre. Puis, je savais qu'en battant ce gars-là, ça allait m'apporter d'autres opportunités championnat du monde. J'ai gagné. Ensuite, j'ai pas eu d'autres opportunités. Et à cause de ça, j'ai boxé contre Bossé. Puis après ça, le combat contre Bivol s'est présenté à moi. Je l'ai pris. Malheureusement, j'ai perdu, mais c'était une victoire morale pour moi parce qu'avec ce combat-là, j'ai vu que j'avais encore du gaz dans la tête. Parce que, tu sais, ce combat-là, j'étais malade, j'avais des problèmes, c'est à mes yeux aussi. Puis je savais que si j'avais été à 110%, je sais pas que j'aurais gagné, mais j'aurais eu de meilleures chances de gagner, mais je savais que le gaz était là. Donc, là, après ça, si j'ai perdu, là, on dit, ah, OK, il est fini, là, c'est sûr. On m'a redonné un petit jeune encore, mais moi, je savais que j'étais pas fini, j'avais encore du gaz dans la tête, j'ai accepté le challenge. J'ai eu un deuxième combat de championnat du monde, je l'ai accepté et j'ai gagné.
Bing!
Donc,
le retour du champion.
Excuse-moi,
dans ta tête, est-ce qu'il y avait comme la musique de Rocky, là? Est-ce que c'était comme, je sais pas, là?
Non, mais j'étais content, tu sais, surtout que...
OK, mais combien t'as gagné?
Pour mon dernier combat.
C'est public, là.
Ben, pour un combat, c'est assez pour manger 3 fois par jour.
Non, mais c'est public. Contre, je vais faire une recherche, je vais le savoir.
Non, mais pour ce combat-là, non, c'est pas public. Mais okay. Par exemple, j'ai pas gagné dans les 7 chiffres, malheureusement. J'étais le underdog de 20 contre 1.
Mais c'est ça.
On me donnait en appât. Pour faire monter...
Attends, excuse-moi. Déjà, tu commences à être faire valoir. Là.
Non, c'est ça que je veux
avec tout le respect que je te dois, mais
t'étais... Moi.
T'étais presque un jambon pour lui, là. Je sais pas
un jambon, mais j'étais comme... C'est con qu'on dit ça. J'étais le boxeur
qui allait...
J'étais un bon petit challenge pour lui, mais j'étais le boxeur qui allait lui permettre de se faire connaître à travers le monde.
On aime ça, ces histoires-là, l'underdog.
C'est ça.
C'est ça qu'on aime.
Moi, là, c'est... être l'underdog, qu'est-ce que les gens ne comprennent pas, c'est l'histoire de ma vie. C'est l'histoire de ma vie.
C'est très bien résumé.
Parce que même à l'école, et j'étais l'underdog. Tu sais, je ne suis pas un intellectuel, je n'ai jamais été le gars le plus intelligent, mais je suis un gars qui travaillait fort, qui étudiait. C'est pour ça que j'ai eu des bonnes notes. Exemple, en cinquième année, premier exemple, en secondaire, j'étais en quatrième année, je ne connaissais pas ma table de multiplication. Puis, tu sais, des fois, les professeurs faisaient rangée par rangée, 4x4, là, ils faisaient les faire. Puis moi, je connais du fond, je répète tout le temps. Puis, comme je vous dis, j'ai trop de respect pour tout valoir. Puis moi, j'étais quelqu'un qui a beaucoup de respect pour ma personne, je me respecte beaucoup, puis j'aime pas ça avoir honte. Puis j'avais honte parce que je connaissais pas mes tables. Fait qu'en quatrième année, j'ai passé ma quatrième année, mais tout l'été, j'ai étudié ma table de multiplication, pendant tout l'été. En cinquième année, j'étais le meilleur de la classe.
Bravo! Est-ce que tu peux dire ça, mon fils?
puis même, là, je me rappelle, il y avait un concours de génie en herbe. On avait un concours de génie en herbe, puis j'étais celui qui a représenté la classe.
Voyons donc!
J'ai encore mon petit trophée, tu sais, des fois, j'ai retrouvé le petit trophée que j'avais gagné, que j'avais représenté ma classe.
Mais c'est un grand trophée, génie en herbe.
Qu'est-ce qui est le plus précieux, ta ceinture verte? Ou le petit trophée de génie en herbe que tu avais appris tes tables de multiplication?
Ben justement, je pense que c'est ce trophée-là qui m'a permis d'avoir la ceinture.
Ah, très bien
le
dit.
Le travail, tu sais.
Le travail, l'effort.
Ouais.
C'est l'éthique de travail.
C'est ça.
La seule raison pourquoi que j'ai été le meilleur, c'est que j'avais honte de ne pas savoir mes tables de multiplication.
Aux underdogs.
Underdog.
Les gens là, qui réussissent à monter la côte, à travailler fort, puis on dit...
À sortir de leur milieu.
Regarde, il est has-been, il est fini, il ne remontera pas à la côte. Quelqu'un qui arrive, boum!
les amis!
Underdog.
Écoute, super! Tu vas raconter, mais c'est une histoire hallucinante.
C'est le fun!
Et pour les enfants qui nous écoutent, la morale de cette soirée, devine qui vient souper, apprenez vos tables de multiplication parce qu'un jour, vous allez peut-être être des champions!
Exactement. Vous avez écouté le balado « Devine qui vient souper » avec Richard Martineau et Sophie Durocher. Prise de son, Bastien Gagnon, La France. À la recherche, Hugo Veilleux. Au montage, Philippe Seguin. Co-réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Chef réalisateur, Bastien Gagnon La France. Une idée originale de Mathieu Turbide. Une production Cube Radio.
Vous avez rejoint le plus bel homme de Laval qui se nomme Jean-Pascal. Veuillez me laisser un message vocal ou numérique. Je vais vous rappeler automatique, sans panique, même dans une cabine téléphonique.